pour vous dire que ce qui vous attend, c'est, ça peut être à la fois quelque chose de, ça va être quelque chose de très dur, mais de très beau si vous le réussissez. La seule façon de le réussir, c'est que en fait vous êtes rentré en guerre aujourd'hui. C'est pas simplement une lutte, c'est la guerre. Ils vont essayer de vous faire croire que vous coûtez trop cher. On vous explique que si vous êtes dehors, c'est à cause du coût du travail. Quelle belle blague! Depuis quand les ouvriers coûtent de l'argent au patron?
Protéger le climat et pas le capital! Protéger le climat et pas le capital! Protéger le climat et pas le capital! Protéger le climat et pas le capital!
Le problème, c'est que on a une politique qui est décalée sur ce qu'est la société réelle, quoi. Et, enfin, la société de la rue, la société du quartier, la société de la ville. Ouais, c'est sûr, j'ai fait passer des gens, mais moi, je m'en fous leur loi. Enfin, c'est pas que je m'en fous leur loi, c'est que je vais pas demander les papiers aux gens de savoir s'ils ont leurs papiers, ils ont pas leurs papiers. Si la loi, elle, c'est ça, ben, il faut changer les lois, puis c'est tout, quoi.
Allez, bonsoir, c'est Grégor. Chaque semaine, sur les Coligarigues à Montpellier, Canal Sud à Toulouse, à Local à Saint-Giron et bien évidemment Radio Primitive sur Reims où cette émission est enregistrée. Grégor, une parole anarchiste communiste. Bonsoir.
Bonsoir. Alors, ce soir, nous allons parler d'une profession et d'un procès qui va venir, effectivement, le 21 juin 2017.
21 vers, janvier.
21 juin 2017.
Ah, pardon.
Vers 12h30, sur le site industriel de Cristanol à Bazancourt, qui est un site de stockage de céréales et de sucre. S'est déroulé un accident mortel puisque Quentin, cordiste de son état, est décédé dans un accident du travail dans un silo. Et ce site de Cristanol à Bazancourt avait déjà été le lieu en 2012. D'un autre accident mortel, puisque deux cordistes avaient trouvé la mort sur leur lieu de travail dans des conditions qui restent à déterminer. Cet accident du travail donnera lieu le 11 janvier à un procès, après 7 ans de procédure. On entendra d'ailleurs dans l'émission la compagne de Vincent, un des deux cordistes décédé. Et ce site a également donné lieu au décès de deux autres personnes, deux autres travailleurs, à Bazancourt. Voilà, pour parler de tout ça ce soir, on a Greg.
Ben, salut, bonsoir.
Qui est cordiste intérimaire de son état et qui est venu ici à la fois pour préparer le procès et puis tu nous en parleras au cours de l'émission, pour participer à la constitution d'un collectif qui réunit à la fois des membres de la famille des victimes des accidents mortels et un collectif de cordistes qui a décidé de prendre un petit peu les choses en main pour pouvoir essayer de s'organiser par rapport aux conditions de travail des cordistes. Mais je te laisse tout de suite la parole et peut-être tu peux nous expliquer justement les objectifs dans un premier temps de ce collectif et puis toi, ce que tu sais sur cet accident, quoi.
Ben, du coup, en fait, cette association, ça part de, premièrement, du coup, l'initiative des familles, donc des victimes, et notamment de la famille de Quentin, qui, comme tous, en tout cas, ce qui est remarquable, en tout cas, dans leur réaction suite à cet accident, c'est de vouloir continuer à se battre après ce qu'ils ont traversé et de vouloir faire en sorte que c'est ce qui leur est arrivé, ce qui est arrivé à leurs proches, constitue un avant et un après. Enfin, en fait, de faire en sorte que ça se reproduise plus, quoi. Et du coup, voilà. Donc samedi 15 sur Reims, il y avait, c'est eux qui ont été à l'initiative de faire une réunion pour constituer une association de défense de cordistes et pour venir aussi en aide d'une manière générale aux victimes d'accidents de travail, essentiellement dans le milieu de la corde, des cordistes, mais en se disant que de toute façon la réalité du boulot, c'est qu'on se retrouve sur des chantiers, on se retrouve confronté à, on est, on se, Il y a différents corps de métier qui interviennent sur différents chantiers. Bon, s'il y a un soudeur, un plombier qui a un accident de travail, on pourra, si on est dans la mesure de les soutenir, on le fera, quoi. Donc il y a eu cette réunion. On était un petit nombre, c'est un début. L'idée, c'est d'intervenir donc sur la question de la sécurité au boulot, mais aussi des conditions de travail au sens large, parce que c'est une profession où il n'y a aucune jusqu'à maintenant. Enfin, il y a un syndicat, une section syndicale qui a 3 ans, mais qui est balbutiante et qui a jusqu'à maintenant pas réussi à avoir un réel poids dans la profession. En tout cas, qui n'a pas réussi à fédérer des cordistes pour vraiment s'organiser à la base. L'idée, c'était aussi à travers cette association, d'essayer de faire ce boulot-là, de réussir à se solidariser, à se rassembler, se solidariser et à tisser un réseau de solidarité pour essayer de moins se retrouver isolé, en tout cas sur les chantiers, face à nos employeurs, que ce soit par rapport aux conditions de travail ou par rapport à l'absence de mesures de sécurité et des risques auxquels on est confronté au boulot, quoi.
Oui, puis il s'agit aussi d'avoir du poids en matière de justice lorsqu'il y a des procédures qui sont engagées, d'une part. Hein, là, la réunion s'est déroulée chez un avocat qui est partie prenante de la défense, de l'action en justice contre un des employeurs. Il s'agit aussi de réfléchir sur les normes, on pourrait dire, qu'il faudrait mettre en œuvre pour que les conditions de sécurité et d'accès dans ces lieux très particuliers que sont les silos, on y reviendra sans doute dans le détail, soient améliorées et que les cordistes en particulier puissent avoir la maîtrise complète de l'endroit extrêmement dangereux dans lequel ils travaillent, quoi. D'avoir en quelque sorte un droit de retrait immédiat lorsqu'il y a une constatation d'un défaut, d'un dysfonctionnement autour dans leur environnement immédiat, quoi.
C'est-à-dire, à la fin, tu pointes quelque chose qui est assez important, la question du droit de retrait. Et dans la pratique, en fait, moi, je vois deux problématiques par rapport à la difficulté de faire appliquer son droit de retrait. Enfin, son droit, c'est d'une part... pour juger du risque, enfin du danger sur une situation de travail, déjà il faut connaître, faut être formé pour savoir que telle situation ça peut comporter un danger. Là on parlait du silo, donc c'est des travails en espace confiné, c'est-à-dire qu'on est enfermé, enfin c'est il y a plein de risques, il y a l'atmosphère explosive, il y a le fait d'avoir des poussières en suspension qui peuvent rendre difficile la respiration, l'absence de l'effort taux de CO2,
la chaleur
et la difficulté des procédures d'évacuation. Donc ça c'est la question du travail confiné, mais il y a plein d'autres situations dans les boulots de cordisme, mais comme dans plein de métiers, mais qui sont spécifiques. Et ce que je voulais dire par rapport au droit de retrait, c'est qu'en fait pour pouvoir estimer quand on arrive et qu'on n'a jamais bossé dans cette configuration, pour pouvoir mesurer l'absence de prévention, enfin, le fait que pouvoir se dire là en fait aujourd'hui je risque ma peau et donc j'y vais pas, mais en fait il faut être formé, il faut avoir un minimum de formation, et assez souvent dans ces boulots là on envoie des gens qui sortent qui ont pas beaucoup d'expérience, qui acceptent les boulots, souvent c'est des boulots qui sont les moins bien payés, et on se retrouve et du coup on accepte on sait même pas
quoi, risques,
on sait même pas comprendre
on envoie des novices, quoi, en fait.
Et le deuxième aspect c'est aussi la contrepartie du fait d'envoyer des gens, des collègues qui sortent, qui démarrent dans le boulot, qui sont prêts à prendre un peu n'importe quelle mission. C'est aussi que si tu ouvres ta gueule dès le premier jour de chantier et que tu dis non je rentre pas, c'est trop dangereux, arrêtez vos conneries, le risque c'est que quasi automatiquement le lendemain voire la semaine d'après on te rappelle pas pour une nouvelle mission, quoi. Tu te grilles dans cette boîte intérim ou dans cette entreprise et...
Ouais. Oui, je crois que quelqu'un signalait lors de la réunion qu'il est arrivé régulièrement que des équipes, pour un gros travail, une mission qui va durer 3 semaines, 1 mois, sur un silo, il y ait 12 personnes sur le lieu et qu'il n'y ait qu'une seule personne parmi les 12 qui soit un permanent. Donc ça veut dire que tous les autres sont des personnes inexpérimentées, parce que dans la profession, il y a un turnover important et il y a aussi beaucoup de gens qui n'ont de cesse que à vouloir rembourser les sommes considérables engagées pour se former. Donc, ce qui explique aussi les conditions sans doute très difficiles de réplique, quoi, possible.
Ouais, c'est ça. Sur l'accident qui a causé la vie à Quentin, tu disais effectivement il y avait 12 cordistes qui étaient embauchés, donc le travail est dur et épuisant, donc on tourne par session, et sur ces 12 cordistes, il y avait un seul qui était en CDI, un deuxième qui était en CDD, et l'ensemble des autres étaient en intérimaire, avec évidemment des reconductions de contrat à la semaine, en général le vendredi, hein, qu'on le sait, et souvent en général on le sait plutôt par les gens qui sont sur le site, plutôt que par l'agence d'intérim, donc évidemment vous voyez la précarité qui peut y avoir. Les cordistes, c'est quelque chose qui est en nette expansion depuis une quinzaine d'années, mais ça représente quoi aujourd'hui
Les quelques chiffres qu'on arrive à avoir, qui viennent du syndicat patronal, et c'est les seuls qui arrivent à faire un décompte, c'est moins de 10 000 personnes. Enfin, aujourd'hui, ça frôle les 10 000 personnes. Et là-dessus, c'est la moitié qui sont intérimaires.
4 200 intérimaires. Ouais, et on a une progression de plus de 53% en l'espace de quelques années.
Ouais.
Entre 2009 et 2016.
Bah en gros, entre moi, les chiffres que j'avais trouvés, c'était bon, une fourchette encore plus courte, c'était entre 2014 et aujourd'hui, ça avait doublé. Moi, les chiffres, le nombre d'entreprises et le nombre de travailleurs dans la profession, quoi.
Et alors, pour un travail qui est assez incroyable, puisque tu nous as amené des photos. Alors ici, il y a beaucoup de sucre, hein, la betterave, il y a beaucoup de céréales, le blé. Donc il y a beaucoup d'interventions de cordistes sur le département et la région. Hein. On aura peut-être le temps de parler de Cristal Union. Cristal Union, c'est d'Adisuc. Hein,
c'est Béguincé.
Ouais, Béguincé,
pour ceux qui connaissent sous ce nom-là.
Hein, les boîtes roses, c'est d'Adisuc. Hein. Enfin bon, peu importe, c'est pas grave, c'est une grosse boutique, 2500 salariés, 3 milliards de chiffre d'affaires, 150 millions, enfin ça tourne, hein, c'est pas la misère, et donc c'est des silos qui sont posés comme ça dans la campagne, et tu nous as ramené des photos des conditions et de ton boulot, quoi. C'est assez visuellement assez incroyable, quoi. Ça fait penser, on disait tout à l'heure, à des mines de sel, quoi. C'est-à-dire un trou de 50 cm de diamètre, dans lequel descendent des gens en combinaison blanche pour gratter les murs. Vraiment, je trouve que le terme de mine de sel est pas l'image, si vous pouvez vous la faire dans la tête. Tout
Sauf
ça dans
que
le
les
noir.
Mines de sel, c'est à ciel ouvert.
Ouais, c'est ça. et tout ça dans le noir avec une frontale. Voilà, quoi, il n'y a pas de lumière et on descend et on gratte le mur pour pouvoir faire redescendre et remettre en poussière, en grain, le sucre ou le blé pour qu'il puisse s'écouler, parce que tout ça, ça cristallise, ça colle et ça cristallise sur les murs, et il faut pouvoir réduire ça en poussière pour redescendre. Donc vraiment un taf de bagnard, quoi. On n'est pas en train de
un travail de Sisyphe, tel que le décrit Eric Louis, qui a arrêté le métier depuis l'accident auquel il a participé. Enfin, il a participé,
il était confronté,
témoin, en fait. Un travail de Sisyphe, oui, où on a la pioche pendant des jours et des jours. Il s'agit de réduire ces montagnes de sel, ces montagnes de sucre, pardon.
Tu vois, ça tâche aux parois.
Voilà, ça tâche aux parois. Ouais.
Tout ça,
tu nous décriras peut-être
et tout
plus
ça
précisément.
Pour un coût, un tarif horaire finalement extrêmement faible, quoi, puisqu'on est...
Bah, à peine plus haut que le SMIC, ça démarre à 10 balles de l'heure.
C'est ça. Et avec un statut en général d'intérim ou d'autres entrepreneurs.
Comme on le disait, la moitié c'est en intérim, mais après il y a sur l'autre moitié restante, il y a une part aussi d'auto-entrepreneurs, ouais.
Et alors tu disais qu'il y avait eu une modification et une explosion du travail. C'est vrai que peut-être potentiellement on voyait plutôt des gens qui étaient on va dire en relation avec le milieu de l'escalade ou qui avaient des connaissances comme ça il y a quelques années, mais aujourd'hui c'est quoi?
Au départ, moi de ce que j'en connais, ça a démarré dans les années 80 à peu près. C'est des personnes qui étaient guides de haute montagne ou qui faisaient de la spéléo, ouais. Et qui en dehors de hors saison de leur saison de guide, en fait ils faisaient des petits chantiers comme ça pour compléter leur salaire, et donc c'était vraiment un tout petit milieu et c'était vraiment assez marginal ce que ça représentait. Et ça s'est progressivement, ça s'est structuré. Il y a des boîtes qui sont montées et qui aujourd'hui sont devenues des grosses boîtes et qui sont elles-mêmes structurées au sein d'un syndicat qui est un syndicat patronal qui s'appelle le SFETH et qui ont créé un organisme qui s'appelle le DPMC. C'est un organisme en fait qui a structuré aussi, qui a créé des certifications pour les travailleurs. C'est des CQP, des certificats de qualification professionnelle qui sont maintenant obligatoires pour travailler dans la profession. Et surtout, au bout du bout, et après tout ça, ils ont développé des centres de formation qui tous les ans font sortir, produisent à l'appel des nouveaux collègues qui ont cette formation et qui rentrent sur le marché du travail. Pour arriver à une situation où il y a 20 ans, le taux horaire, c'était à peu près du 20 balles de l'heure. Et aujourd'hui, ça a été divisé par deux. On est retombé au SMIC. Quoi.
Moi, j'en avais rencontré il y a longtemps des gens qui étaient sur un immeuble énorme où ils montaient en cordée. Ils étaient deux. Et à cette époque-là, ils m'avaient dit qu'ils étaient correctement payés. Ce qui est plus le cas maintenant, moi, ça m'a étonné le plus, ça a vraiment étonné, ça.
Et en plus, dans la situation que raconte Greg, si c'était, on va dire, un travail de complément hors saison, tu pouvais avoir une certaine liberté, quoi. Ça voulait dire que tu pouvais refuser. Tu avais ton travail principal de guide ou de spéléo. Ouais. Et bon, voilà, ça, tu faisais en complément. Et par contre, on s'aperçoit qu'aujourd'hui, les formations, elles coûtent hyper cher. En l'occurrence, Quentin, sa formation, il l'avait financée lui-même. Et que donc, quelque part, il y avait aussi un endettement, et ça joue aussi.
3 500 balles, plus fait, après 1 000 euros de le kit EPI, les EPI, c'est l'équipement de protection individuelle, mais en l'occurrence, c'est un harnais, tout le matériel nécessaire pour elle. Que normalement, c'est l'employeur qui le paye, mais en fait, dans la pratique, en fait, c'est nous qu'on se paye ce matos-là. Et donc, en gros, ça fait en total, ça fait quasiment du 5 000 balles à sortir pour démarrer à bosser, quoi.
Et alors, en rantaine, on parlait des sous-traitants, donc qui vont s'occuper de dénicher les chantiers et de les gérer, et qui, par contre, eux, semble-t-il, se font pas mal de fric, et c'est un excellent business. Hein. Tu as une idée de ce que ça peut représenter? Tu me parlais de...
Je sais plus. Alors,
tu me parlais de 80 euros de l'heure.
Alors ça, c'est moi, c'est sur un chantier où j'ai bossé l'année dernière. C'était un gros chantier de construction sur Paris, vers Nanterre, et où en gros, nous, on était embauchés par une boîte qui nous payait en gros pareil entre 10 et 12 balles de l'heure, et ils nous vendaient à l'heure. En fait, ils nous louaient à l'heure à Vinci, qui était le gestionnaire du chantier, et eux se faisaient payer pour nous 80 balles de l'heure. Donc ils nous vendaient une petite butte de, je sais pas, enfin, j'ai pas calculé, mais c'est énorme.
Vaut mieux pas, sinon après.
Équipé par 8.
Et Carrard, je crois qu'il vendait la journée 1 000 euros.
Ben ça, c'est d'une manière générale, en fait. Ce que je disais, c'est un binôme, c'est vendu à peu près, donc deux cordistes à la journée, c'est vendu 1 000 euros à peu près.
D'accord. Là, on a une proportion, on a une idée, et tandis que les cordistes devaient toucher une centaine d'euros, quoi. Ouais. Maximum.
Maximum.
Je voulais faire une remarque, mais peut-être qu'on développera tout à l'heure dans le détail, c'est que le syndicat patronal que tu as mentionné tout à l'heure a commandé en interne une enquête sur l'accidentologie. Cette étude n'a pas été publiée, mais donc elle donne des éléments, elle a donné des éléments sur les chiffres d'accidents graves, accidents mortels, blessures, etc. Et que par ailleurs, il y a une enquête qui a été faite par l'inspection du travail. Pour le moment, elle n'a pas été non plus accessible. Elle n'est pas accessible aux gens qui vont se constituer partie civile. Mais il semblerait qu'une inspectrice du travail soit convoquée au tribunal, soit entendue comme témoin. Au procès qui aura lieu le 11
janvier. Donc là, c'est l'inspectrice qui a bossé sur l'accident de Vincent et Arthur de 2012. Et du coup, donc là, l'idée, c'était de la faire citer à la barre pour témoigner. Donc normalement, c'est ce qui devrait se passer, c'est ce qui devrait se passer au mois de janvier. Mmh. Et après, parce que tu disais, l'étude commandée par le syndicat patronal, ça, c'est un truc beaucoup du coup plus large sur l'ensemble de la profession. Mais effectivement, ils l'ont pas publié. Bon, là, Il se pourrait que ça soit publié nécessairement sous peu, mais pour l'instant, ça, en tout cas, de leur propre chef, ils ne l'ont pas fait. Quoi.
Qu'est-ce que tu as, toi, comme chiffre sur le taux d'accident à la fois mortel? Rien du tout, il n'y a pas,
fait,
pas du tout.
Les chiffres qu'on a, c'est ceux qu'on se passe. C'est l'addition qu'on fait, l'addition sordide qu'on fait entre nous, parce qu'il y a un Facebook qui rassemble, qui est pour le coup, c'est un chouette outil, ça rassemble à peu près 5000 personnes, donc à peu près la moitié des cordistes en France. Et donc, à chaque fois qu'il y a un accident, qu'on a connaissance d'un accident, on se partage l'info. Et là, cette année, c'était au moins trois à notre connaissance. Il y a trois collègues qui sont décédés dans l'année. Et là, c'est en quelques années, ouais, c'est plus d'une dizaine de personnes qui sont décédées.
Rapporté au nombre.
Oui, le nombre qu'on est dans la profession. Il signale que la population de cordistes a augmenté de plus de 150%. Il signale que, par exemple, j'ai quelques chiffres là, pour 22 entreprises, 174 accidents recensés en 3 ans qui ont provoqué une multitude d'arrêts de travail. Pour 30 autres entreprises, il parle des hospitalisations. Pour 30 autres, il y a eu. Ah, mais j'ai pas le chiffre. Il y a eu 4 accidents mortels. Et des hospitalisations de 48 heures à un mois.
Et ça sur une tranche de 3 ans, sur une fourchette de 3 ans, du coup. L'étude.
Ouais. Ouais, rapporté au nombre de travailleurs dans cette branche, c'est vraiment énorme. Alors, donc, le 11 janvier se déroulera à Reims le procès, le début du procès, après 7 ans de procédure, on l'a dit, de la mort de Vincent
et Arthur.
Et Arthur, on a eu cet après-midi la compagne de Vincent à l'époque qui nous a fait l'amitié de répondre à quelques-unes de nos questions. C'est grâce à son acharnement et à sa motivation que ce procès aura lieu. Elle a bien voulu répondre à quelques-unes de nos questions. On va l'écouter normalement tout de suite si ça fonctionne. La première question, oui, c'est Fanny, tu es la compagne de Vincent, donc qui est décédé d'un accident du travail dans le même silo que Quentin en 2012, c'est ça?
Que Arthur.
Arthur, pardon. C'est ça. Et est-ce que tu peux nous raconter si tu les connais les conditions du décès de ton compagnon?
Ça tombe bien parce qu'en plus ce matin j'ai reçu la citation pour paraître la partie civile, donc s'il y a besoin de noms et tout ça, j'ai tous les noms, j'ai tous les chefs d'inculpation en détail avec les bons intitulés, donc c'est très bien. C'était le 13 mars 2012, donc Vincent avait été appelé, missionné par sa boîte d'intérim qui était la CES d'intérim. Pour aller faire, à la base, c'était du nettoyage et de l'écrétage de silos dans le silo de Bazancourt par l'intermédiaire de la société Car Service. Donc, il devait intervenir normalement, à la base, juste pour nettoyer les parois et gratter les morceaux de sucre, en fait, qui colmatent le long des parois et au fond des silos. Sauf que quand ils sont arrivés, il y avait une hauteur de sucre de silo, il fait 40 mètres de haut. Et c'était prévu qu'ils interviennent dans le silo à partir d'une trappe située à 7 mètres de haut. Mais elle était obstruée par du sucre parce qu'il y avait plus de 10 mètres de sucre au fond du silo. Donc déjà ça, c'était pas prévu au départ. Et donc ils sont descendus, ils étaient 4 cordistes à descendre au fond du silo. Et ils ont commencé à dégager la trappe et il y a eu un ordre de donner pour ouvrir des trappes sous le silo pour dégager le sucre, alors que les cordistes à l'intérieur n'étaient pas au courant que ces trappes allaient être ouvertes. Et donc ça a créé une aspiration et ils ont été ensevelis par le sucre. Voilà. Donc ça a provoqué le décès d'Arthur et puis de Vincent. Et puis ça a entraîné aussi. Il y a aussi Frédéric qui a commencé à être entraîné dans le sucre et qui a réussi à couper ses cordes pour pouvoir se dégager au dernier moment. Voilà en gros les circonstances de l'accident.
Et toi, lors de cet accident, qu'est-ce que tu as eu comme information à la fois de la part de la société Carrard, son employeur, mais aussi
de la société qui exploite le silo.
Alors en fait, moi déjà je ne savais même pas que c'était à Bassancourt l'intervention, parce que je savais que c'était dans une sucrerie, mais il y en a beaucoup autour de Reims. Et Cristal et nous, on a deux ou trois autour de Reims. Donc, Et j'ai été prévenue par un ami qui avait mon numéro de téléphone. Lui a été prévenu de l'accident. J'ai jamais eu aucun contact téléphonique le jour de l'accident, ni avec Cristal et nous, ni avec un service. Et même pas par les gendarmes. En plus, les gendarmes n'ont même pas appelé pour me prévenir du décès de Vincent. Je l'ai su par des amis.
Ça fait combien de temps que Vincent était cordiste
à ce moment-là? Il avait commencé en 2005.
Ouais.
Il a fait une formation au Greta de Die. Il avait un CAT. C'est l'équivalent d'un CQP2.
Ouais, c'est ça. Ouais, d'accord. Donc il était quand même largement expérimenté.
Il pratiquait l'escalade depuis plus d'une vingtaine d'années, la spéléo depuis quasiment 5 ou 6 ans. Il n'était pas novice dans la profession. Il avait déjà fait des interventions dans des silos. C'était pas sa première intervention en silo.
Et donc, toi, tu as décidé de te retourner contre la boîte, contre Cristal Union, début janvier, c'est ça?
Le 11 janvier,
ouais. Qu'est-ce que tu vas demander lors de ce procès?
Moi, je me suis constituée partie civile. Déjà pour connaître les circonstances exactes de l'accident, et puis essentiellement pour que ce genre d'accident ne se reproduise pas. C'était ma principale motivation. La première fois que j'ai rencontré l'avocat, c'était faut tout faire pour que ce genre d'accident ne puisse pas se reproduire.
Or, visiblement, c'est pas le cas, puisque dans le même silo, ce site est visiblement, alors pardon pour le thème, mais extrêmement accidentogène, quoi. C'est assez affolant quand on a découvert le nombre d'accidents mortels ou de décès sur ce site, quoi.
Bah, c'est d'autant plus énervant et d'autant plus incompréhensible de notre part. Depuis toutes les années, rien n'a été fait pour changer les modes opératoires et améliorer la sécurité.
Et donc, ça fait 7 ans, il t'a fallu 7 ans de procédure pour pouvoir aboutir à un procès, quoi.
Ouais. C'est extrêmement long, c'est psychologiquement c'est très compliqué à supporter, toutes ces années où on n'avait aucune information, ni de la part de nos avocats, ni de la part du juge. C'est vrai que c'est très compliqué.
Oui, effectivement, parce que dans ce genre de truc, on se retrouve seul, d'autant plus que cette profession de cordiste, qui est quelque chose d'assez, il y a assez peu de gens, quoi. Il n'y a pas de groupes qui sont représentés, donc on se retrouve seul à la fois face au drame à gérer, mais en plus à la nécessité de défendre ses intérêts, quoi. Donc
moi, au moment de l'accident, le milieu judiciaire, je n'y connais absolument rien, je ne connais pas d'avocat, j'étais complètement démunie face à ça. Donc, c'est aussi pour la raison pour laquelle on a créé l'association samedi dernier.
Tu peux nous dire deux mots justement sur cette démarche, puisqu'on a un des membres éminents à côté de nous de l'association.
Moi ma motivation principale dans cette association, c'est justement, il y a plusieurs axes en fait. Il y a un axe pour apporter de l'aide aux éventuelles futures victimes d'accidents du travail de cordistes. Et puis il y a surtout un axe d'information et de prévention des accidents et de développement de la sécurité, parce que le métier de cordiste, d'un point de vue légal, il est très mal encadré. Et dans les formations, c'est tellement vaste le type d'intervention que peuvent avoir à faire les cordistes qu'ils ne peuvent pas connaître toutes les mesures de sécurité sur toutes les informations, toutes les interventions. Donc en fait, c'est pour aider à la fois les débutants et à la fois les cordistes confirmés à respecter au mieux les modes de sécurité et à pas avoir de nouveaux accidents, que ce soit dans les silos ou ailleurs, dans n'importe
quoi. Ben moi, peut-être, je me disais sur le. Pour en revenir au procès qu'il va y avoir au mois de janvier, peut-être tu pourrais nous rappeler un petit peu ce qui, les chefs d'inculpation qu'il va y avoir, enfin, qui sont prévus là, par rapport à Cara Service et Cristal Union.
Alors, attends, je vais te lire parce que je ne les connais pas par cœur. Alors. Il y a donc en mise en examen, il y a la société Cristal Union qui est représentée par Maurice Deboron, c'était le directeur en 2012. Il y a la société Car Service qui est représentée par Pierre Vacheron, qui était le directeur aussi en 2012. Et il y a aussi, donc en tant que personne, il y a David Duval qui travaillait dans la société. Car Service et Michel Mangion qui travaillait dans la société Cristal Union. Ils sont mis en examen pour homicide involontaire par violation manifestement délibérée d'une obligation de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou le règlement. Alors après, les articles sont prévus et réprimés par les articles 221.6, 221.8 et 221.10 du Code pénal et les articles L. 4741A et L4741B du Code du travail. Et ils sont aussi mis en examen pour blessure involontaire par violation manifestement délibérée d'une obligation de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou le règlement ayant entraîné une ITT supérieure à 3 mois. Parce que Frédéric Soulier a porté plainte pour blessure involontaire.
Ok. Voilà.
Ouais, c'est un homicide involontaire.
Ils sont punis de 5 ans d'emprisonnement et 75
000
euros d'amende au maximum.
Ouais, moi je voulais te dire, Fanny, il y a un précédent en termes de condamnation. C'est chez Euromil où il y a eu un accident. Euromil à Chalon-sur-Marne, à Colus plus exactement, a été condamné récemment. Alors c'est une branche céréalière, mais ça fait partie finalement du même. De la même origine de chez Deboan, hein, le fondateur des deux branches sucrières d'un côté et céréalières de l'autre. Et en fait, ils ont été condamnés pour homicide involontaire tout récemment à 15 000 euros, obligation de publicité dans les différents lieux d'activité où il y a des silos. Et puis, je ne sais pas, condamnation pour les frais juridiques, à payer et rembourser les frais juridiques. Est-ce que moi j'ai un peu le sentiment que c'est. On est loin du compte, quoi.
Ah, ben carrément. 15 000 euros pour une vie perdue au travail, c'est juste inadmissible, sachant qu'on peut être condamné à peu près la même chose pour un excès de vitesse à répétition. Enfin, voilà, quoi. Après, ça, c'est juste l'amende. Les dommages et intérêts, c'est. Je sais pas s'il y a eu la précision des dommages et intérêts, parce que c'est deux montants différents, en fait, sur les condamnations. Donc peut-être que dans ce cas-là, ils ont dû aussi payer des dommages et intérêts aux victimes, je sais pas si c'était précisé. Mais c'est vrai que juste de 15 000 euros, ça représente rien, quoi. Après, moi, je ne suis pas partie civile pour l'argent, ça n'a aucune importance, ça ne me ramènera jamais 20 ans. Donc voilà, quoi. Mais c'est vrai que c'est assez scandaleux.
Ouais, c'est qu'on a l'impression que effectivement tu fais un chèque et puis tu peux continuer comme si de rien n'était, quoi. Et finalement il y a rien qu'avance. Votre avocat le disait très bien samedi après-midi. Il y a personne qui va en taule. Il y a pas de responsabilité, quoi. On passe un coup d'éponge, quoi. Voilà, c'est ça.
Bah, le pire c'est que en plus le tribunal le 11 janvier il va juste statuer sur la responsabilité ou non dans l'homicide involontaire, mais il va en aucun cas imposer ni à Cristal Union ni à Car Service de changer ses méthodes de travail et d'améliorer la sécurité. Apparemment, ça c'est pas le rôle du tribunal, c'est le rôle de l'inspection du travail. Et à ma connaissance, il n'est pas prévu que l'inspection du travail oblige Cristal Union à améliorer ses conditions de sécurité dans les interventions dans les silos. Donc ça c'est juste révoltant. Et juste inadmissible.
Et ça, par rapport à ça, il n'y a aucune, aucun moyen légal en fait de faire pression sur l'inspection du travail pour qu'ils qu'ils imposent.
Ben, je sais pas, c'est la question que je vais poser quand je vais rencontrer l'avocat le 3 janvier.
Okay.
Mais
ouais,
je sais pas du tout.
Bah, on peut aussi estimer
je pense que
ouais.
L'association peut aussi jouer un rôle.
Oui, voilà, c'est ça.
Voilà.
C'est ce que j'allais te dire, visiblement ces gens-là ne comprennent que le rapport de force, quoi. Donc
oui.
Il faut absolument que les cordistes, où qu'ils soient, quels qu'ils soient, et, comme la plupart des travailleurs de toute façon qui sont dans des conditions comme ça, ils s'organisent pour créer un rapport de force avec, avec les employeurs et avec les tauliers pour pouvoir justement imposer ne serait-ce que des normes pour travailler dans des conditions à peu près adéquates, quoi. Enfin,
l'employeur, pas de garantir la sécurité des travailleurs. Donc, là, quand même, trois accidents entre 2012 et 2017, dont deux mortels, apparemment, ça les inquiète pas plus que ça, quoi, chez Cristalignon. Visiblement, ça les empêche pas de dormir le soir, quoi. Donc, c'est juste incompréhensible, quoi.
Ouais, justement, l'avocat chez qui on a eu une réunion samedi pour la à propos de l'association qui est en cours de création ou qui est créée peut-être, je pense, faisait remarquer que on avait assisté ces dernières années et particulièrement avec les nouvelles ordonnances Macron à une, en quelque sorte à une banalisation des situations et des normes, quoi, en fait, une banalisation des normes et en fait rien n'a été entrepris depuis ces drames. Et il disait également que peut-être que l'objectif, parce que lui il signalait qu'en fait Cristanol et cette société qui a quand même un empire au niveau européen est implantée également dans les pays de l'Est où là de nouveau en termes de normes on est sans doute ça doit être encore pire, enfin je sais pas ce que peut être le pire en l'occurrence, mais qui avait nécessité de mener un travail non seulement au plan national évidemment, mais au plan européen, quoi. Voilà, là on est peut-être un peu loin dans la réflexion.
Non, mais c'est sûr que ben, je sais pas, on a l'impression que pour eux, les gens qui meurent au travail, c'est des dommages collatéraux, et puis voilà, il y a un pourcentage, ça rentre dans les chiffres d'accidents du travail, et point barre, quoi. Ça a l'air d'inquiéter aucun dirigeant.
Oui, c'est clair. Fanny, il est 16h30, je sais pas si tu devais partir, non?
J'ai encore quelques minutes.
D'accord, ben c'est tout.
J'ai
Ouais, bah une seule, hein, te demander comment t'appréhendes le 11 janvier et combien de temps ça va durer et qu'est-ce que t'espères de cet après-midi, quoi, au tribunal. Hein.
Ouais. J'appréhende à la fois, je suis stressée, je sais que ça va pas être un moment facile à passer, mais d'un autre côté, je pense que ça pourra d'un côté me soulager si condamnation il y a. Et j'appréhende surtout le fait que si jamais ils font appel, ça va encore reculer la procédure et ça va encore être pris pour un certain laps de temps. Donc voilà, on verra bien le 11 janvier comment ça va se passer. Voilà.
Vous avez une autre question?
Ben non, de toute façon, on se donne rendez-vous le 11 janvier pour être ensemble devant le tribunal.
Ouais, ça marche.
Bon courage, à bientôt alors Fanny.
Merci.
Merci, à bientôt.
À bientôt, salut Fanny.
Into this world I had cracked in some blood on me and some lead in me. Death creeping on my spitting, get your hands off me and get these chains off me.
Get it off me.
Came in the world out the pussy, on the pushy. 5 seconds on the earth, block 50. From all the action, he's dealing with the slash. Wanna be the master, benefactor of evil, evil. Back off the planet. Staying in my eye, roll the bars with my ancestors. Cut the time, tongue hit my spine, keep my breathing in line. Now, back on the plane.
for you, I bought shit. Most of them know cause they horse shit. Big donkey dick, I don't miss shit. My shit sit like milk and big tits. Breastfeeding in public while me mugging. I don't care either, I don't like freedom. Spit down the back like Frida. The whip be like that. No feeling where we hang out. Southern trees and the hook chain as a sniper. Said your name, return you from the game with a hatchet. River blue, none of y'all can match it. I'm ripping a light, I'm ripping a light, I'm ripping a light.
Alors, on est toujours sur les grilleurs, la conversation continuait en rantaine et voilà. Et peut-être quelques rajouts et quelques commentaires sur la discussion qu'on a eue avec Fanny cet après-midi.
Bah, moi, ce que je trouvais important, Fanny le dit tout à l'heure, c'est que ce qui est assez dramatique par rapport à ces accidents, c'est que les process de travail ne changent pas, en fait. On en est à 3 accidents mortels sur le même site industriel à Bazancourt. Et on continue à envoyer des collègues au casse-pipe, toujours dans les mêmes conditions. Il n'y a aucun process qui a changé. En fait, donc là, il y a deux ans, c'était l'entreprise Carrard Service qui intervenait sur le site. Donc du coup, sans système d'évacuation, avec des procédures de consignation qui n'étaient pas du tout suffisantes. Les consignations, en fait, c'est la possibilité, le fait que matériellement, avec un cadenas et une clé, on empêche la remise en route des trappes ou des vis sans fin qui font qu'il va y avoir une modification de l'environnement dans lequel on travaille. Là, normalement, on est censé avoir notre propre cadenas et donc du coup notre propre clé pour empêcher que ça se produise, et ce qui n'est pas le cas. Et donc là, du coup, c'était vraiment, a priori, c'était vraiment au centre des accidents de 2012 qui ont causé la mort d'Arthur et Vincent, et de 2017 qui ont causé la mort de Quentin, et aussi qui ont brûlé gravement notre collègue, un soudeur. Du coup, en 2015, pareil, c'était encore une fois un problème de consignation, une ouverture intempestive de trappe qui a fait rentrer de l'air et qui a soulevé de la poussière et qui a fait une atmosphère explosive. Et quand on soude, ça explose. Donc voilà, donc ça c'est récurrent, ça change pas. Et donc en 2012, c'était l'entreprise Carrard. Après ça, ils ont perdu le marché. Donc de là, c'est une autre entreprise, c'est l'entreprise ETH, une autre entreprise de travaux en hauteur qui a pris le marché à Bazancourt. C'était cette boîte là où Quentin avec laquelle Quentin est décédé en 2017. Et aujourd'hui, je sais pas qui intervient à Bazancourt, mais je sais qu'il y a une autre entreprise qui est dans le nord de la France qui s'appelle Nord Access, une autre entreprise de travaux en hauteur qui fait beaucoup de boulot, qui travaille beaucoup en industrie et notamment dans le nettoyage de silos. Et là, je viens d'avoir un retour de collègues qui me disaient qu'ils ont eu cette année encore un accident, un collègue a failli perdre la vie, il a failli se faire broyer dans une vis sans fin, et encore pour une histoire de consignation. Donc tout ça pour dire que on a des accidents qui se produisent, des accidents graves, mortels, et ils ne constituent pas un avant et un après. Il n'y a pas de conséquences qui sont tirées, d'enseignements qui sont tirés de ces accidents. On reste sur le fait que pour l'instant il n'y a pas eu de procès, ça coûte pas si cher au final au patron de ces entreprises, et puis on continue. Et surtout, ce qui est assez éclairant, c'était le lendemain du décès de Quentin, c'était en juin 2017. Au lendemain de sa mort dans le silo à Bazancourt, le groupe Cristal Union, il publiait en fait son rapport de par rapport à sa santé économique.
Sa santé économique qui était
florissante, quoi.
Bien sûr.
Et donc en fait on est dans le cynisme le plus absolu. Enfin c'est bref, on voit. Enfin en tout cas ça disait tout, quoi.
Il y a quand même quelque chose qui me choque, moi, c'est l'inspection du travail. C'est pas lié au fait à des personnes, hein, en tant qu'il y a des inspecteurs du travail ou des inspectrices du travail qui font très bien leur boulot. Le problème, c'est qu'ils n'ont pas les moyens de le faire, hein, c'est clair. Hein. Il y en a de moins en moins déjà. Et en plus, avec effectivement les histoires qu'il y a eu récemment au niveau de la loi travail, etc., ça se réduit comme peau de chagrin, quoi, leur intervention. Et là, tu dis au procès, il y en a une qui va venir.
Bah en tout cas, je sais plus, moi.
Oui, il y a une inspectrice du travail qui est, euh, qui va être appelée à témoigner.
En fait, c'est une inspectrice, je ne sais plus si celle qui a enquêté sur l'accident de 2012 ou celui de 2017, mais en tout cas, c'est, bon, a priori, c'est une inspectrice qui a essayé de faire son boulot, qui a vraiment essayé d'enquêter, mais qui s'est fait muter en fait, en cours d'enquête et qui n'a pas pu finir.
Ah oui, bah, ça aussi, il y a eu des histoires en France hein, incroyables là-dessus. Hein, c'est-à-dire qu'effectivement, c'est un métier à risque, hein, inspecteur du travail. Hein. À cause évidemment du patronat.
Bah, ça paraît être le minimum quand même, qu'on n'imagine pas que le président du tribunal ou l'avocat soit expert en procédure et tout ça, parce que les employeurs, ils s'organisent. Le SNETAC, qui était le syndicat national d'entreprises de travaux acrobatiques, il existe depuis 88. Hein. Il a changé de nom en 2002. Ils aiment bien changer de nom, ces gens-là, parce qu'ils passent d'entrepreneur à entreprise ou à patron. Avant, c'était clair, au moins, c'était le CNPF. Mais bon, on va pas faire de l'étymologie. Mais eux, ils s'organisent. Il n'y a pas de problème.
Bien sûr.
Et en plus, ils jouent à plein sur cet aspect de culture. Aujourd'hui, c'est le SNETAC, syndicat national des entreprises de travaux en hauteur. Pas trop ce que ça veut dire.
Aujourd'hui, c'est le SFETH.
Et c'est ça. Et bon, ils jouent vachement justement sur ces trucs de culture. J'organise un championnat du monde ou des championnats. Puis on voit bien le travail en hauteur, ce que ça peut représenter dans l'imaginaire. On imagine tous ces ouvriers qui ont monté les buildings et qui marchaient à pieds nus sur les poutres.
Sur les poutres métalliques.
Voilà, c'est ça. Mmh. Ouais, c'est ce truc-là. Donc on joue à plein sur cette culture-là, jeune, un petit peu auto-entrepreneur, etc. Mais derrière, ce qu'il y a, c'est qu'il y a du pognon, quoi. Ça, là-dessus...
Moi, je voudrais revenir sur une chose. Il faut quand même se rappeler que ça a déjà été évoqué ici. L'empire du sucre Béguin, c'est 2,5 milliards de chiffre d'affaires. Hein, et c'est 103 millions de bénéfices nets pour 2500 salariés. Et en fait, le niveau de...
C'est pas Béguin. Cristal Union, c'est pas...
Oui, Cristal Union. Oui, ok, c'est, d'accord. C'est pas, Cristal Union, pardon. Béguin Seil, ça n'existe plus en tant que tel.
Si, c'était les concurrents qui sont les sucreries d'Origny, qui sont, où il y a un gros conflit entre les actionnaires.
D'accord. Bah, tu fais bien de préciser, Camille, ça évite de... Oui, d'accord. Mais... Ce que je voulais dire, c'est au niveau juridique, j'ai l'impression qu'on a, on a un plafonnement du risque pour l'entreprise.
Ben ouais, c'est les ordres de notre patron. Ouais.
On a un plafonnement du risque. Ouais, c'est-à-dire qu'en fait, on peut pas aller, peut-être, probablement qu'on peut pas aller au-dessus de ces peines, 15 000 euros et tout ça.
C'est comme les prud'hommes actuellement.
C'est ça qui est hallucinant.
C'est comme les prud'hommes actuellement.
C'est-à-dire qu'on n'a pas de responsabilité pénale quelque part. On n'a pas la responsabilité. Elle est amenuisée, en fait. C'est ça qu'il faut faire comprendre. Parce qu'en fait, on a un dispositif juridique qui verrouille. Les trappes sont pas verrouillées. Mais là, la vie des gens et ce que ça implique comme conséquence, établir les responsabilités, et c'est ce que disait l'avocat Ludo, disait établir réellement la faute de l'employeur. Et en conséquence, avoir toute une chaîne des éléments pour la mise en sécurité des installations. Est-ce que ces installations, finalement, sont en l'état de la manière dans laquelle elles sont construites, elles sont mises en œuvre, est-ce qu'elles sont valides quelque part? Puisque même les pompiers se refusent à intervenir. C'est quand même qu'il y a un souci.
De 2000,
pourtant, des pompiers qui sont spécialistes aussi dans ce type d'activité. Alors voilà, ça pose un certain nombre de problèmes. Effectivement, si toute cette cascade de mesures était prise et mise en œuvre, peut-être que ça écorcherait un petit peu le bénéfice et le chiffre d'affaires de Cristal Union. Mais voilà, c'est tout ça qu'il faut évoquer immanquablement. Hein. Sinon, les conditions de vie et d'activité seront toujours menacées. Quoi. C'est tout le sens de cette structure, de cette association qui pourra se constituer partie civile, pourra faire avancer les choses, quoi.
Mais on pourrait imaginer si les employeurs étaient cyniques, mais c'est pas le cas, hein, évidemment.
Non.
Qu'ils provisionnent un peu de pognon pour justement en cas d'accident grave, tu vois, comme ils connaissent ce qu'ils doivent payer au maximum. Voilà, bah, on peut continuer comme ça.
Malheureusement,
Bah, ils ont des assurances, tout simplement.
Ouais. Ouais, ils ont l'assurance.
Sur le site du SFETH, le syndicat patronal, en fait, eux, ça fait un moment qu'ils s'organisent, qu'ils se passent des infos. Si t'es abonné, t'as accès à une partie privée sur le site, et sous lequel ils disent qu'ils ont des jurisprudences à se partager pour, en cas d'accident de travail, pour pouvoir se défendre. Ils te parlent du droit de retrait, la question des arrêts de chantier en cas de risque, de danger imminent. Il parle du droit de retrait qui est propre aux salariés, mais il parle aussi et surtout ce qu'ils disent à la fin de leur petite brochure qu'ils font sur les arrêts de chantier. Ils disent, en tant qu'employeur, on peut aussi, on a des sanctions prévues pour les salariés qui mettent en place leur droit de retrait de manière non justifiée. Donc c'est ça la réalité du patronat, quoi.
Ouais. Oui, du coup, oui, eux, ils font leur propre liste noire. Par contre, vous pouvez pas les faire, vos listes noires de boîte, vous pouvez pas les mettre à genoux. Mais d'ailleurs, tous ces exemples qu'on donne là depuis tout à l'heure sur les conditions de travail, pour tous ceux qui ont été travailleurs indépendants ou autonomes, il y a des choses qui résonnent, quoi. Alors, on parle pas forcément sur les métiers à risque, comme le travail auteur, mais à savoir la sous-traitance, 1, 2, 3 sous-traitants. Le fait d'être tout seul face justement à ces tauliers, d'arriver dans un endroit où on ne connaît pas, on ne peut pas bénéficier de la solidarité inhérente à ce qu'on peut avoir dans une usine ou dans une boîte. Le fait de gratter tout ce qu'on peut gratter pour pouvoir augmenter un peu son salaire, la prime de déplacement, la bouffe, etc. etc. C'est frappant, hein, dans le livre qu'écrit Eric sur ce témoignage. Vous avez tous vos bagnoles, vous dormez tous dans vos bagnoles, quoi. Vous n'allez pas à l'hôtel, quoi. Hein. Voilà. En quoi, quelque part, ces caractéristiques de l'exploitation pour le métier de cordiste, pour toi, elles sont, emblématiques et illustratives d'aujourd'hui, du travail dans la société, quoi. Est-ce que tu reconnais des choses, ou est-ce que c'est des thématiques qui sont qu'on vit quand on va travailler, quoi?
Oui, complètement, ouais. Enfin, c'est emblématique, oui. Enfin, c'est ce que tu as dit, c'est l'atomisation dans le travail, les cascades de sous-traitance qui font que, en fait, quand on se retrouve sur un chantier, on peut être 10, 15, peut-être voire 1000 bonhommes sur le même chantier là où j'étais à Paris l'année dernière. Et en fait, on est peut-être pas deux ou trois à avoir les mêmes employeurs directs, en fait. Ouais. Et du coup, quand face à ça, pour s'organiser, sur le moment, ça met de grosses, grosses difficultés pour essayer de s'organiser, essayer de se défendre, se solidariser. Et sans parler du fait qu'on tourne tous d'un chantier à l'autre, traverse la France pour aller sur un chantier. Aujourd'hui, on est là, le mois d'après, on est ailleurs. Et donc, pour tisser des solidarités et avoir un réseau pour, en cas de pépin, appeler des collègues pour pas être seul, c'est d'autant plus compliqué, quoi.
Ouais.
Et d'où l'intérêt d'essayer de créer cette structure, cette association, et d'essayer d'engager un processus pour essayer de créer ce réseau de solidarité, quoi.
Et en syndicalisme, il n'y a rien.
Il y a une section syndicale qui a été affiliée à la CGT,
ouais.
et en l'occurrence à la branche de l'intérim, parce que la particularité de cette profession, c'est qu'en fait on est à cheval sur plusieurs conventions collectives. On bosse autant dans le bâtiment, dans les travaux publics, que dans l'événementiel, que dans l'industrie. Et tout ça, c'est des conventions collectives différentes. C'est des branches syndicales différentes de la façon dont est structuré le syndicalisme en France aujourd'hui. Et donc, en fait, on s'est retrouvé rattaché, enfin, la section syndicale à la CGT s'est retrouvée rattachée à la section intérim. Ça a été un choix arbitraire. Et ce que je disais tout à l'heure, donc, c'est des collègues qui ont fait un gros boulot et jusqu'à maintenant. Qui ont réussi à avoir à être un interlocuteur des organismes comme le SFETH, qui est le syndicat patronal, ou l'OPBTP, c'est un organisme qui fait de la prévention, enfin de l'étude des risques par rapport dans le bâtiment. Mais ce qui a pas été réussi jusqu'à maintenant, c'est de faire un boulot de base, quoi, enfin de se rassembler à la base, enfin de se filer des infos ne serait-ce que de connaître les textes minimum par rapport pour pouvoir se faire payer les heures supplémentaires, de pouvoir négocier les primes de déplacement, pas se faire enfler, enfin sur tous ces petits trucs là, de savoir négocier notre salaire, de savoir lire une fiche de paye, enfin en fait c'est tout ça qui n'est pas du tout propre à la profession des cordistes, mais qui est propre à tous les travailleurs, et qu'aujourd'hui en fait on est tous démunis par rapport à ça. Mais pour moi, c'est vraiment c'est revenir à la base, en fait. C'est se filer ces infos-là, ouais. Faire tourner des témoignages. C'est ce que fait très bien, franchement, Eric Louis avec son, les témoignages qu'il a fait. Pour moi, c'est hyper précieux, ces choses-là. Il faut qu'on arrive à... Parce que ça permet de matérialiser ce que c'est la réalité du travail et de... Et je sais pas, enfin.
Oui, précision par rapport au texte qu'avait fait Eric Louis, c'est qu'il avait publié dans un journal de Lille qui s'appelle La Brique, un journal militant. Voilà, donc c'est publié effectivement, mais pas dans la presse.
Ça passe pas chez Libé, ça. Voilà. Mais ouais, et puis surtout aussi de casser justement ces images quoi, qui sont aussi portées par les syndicats patronaux. Alors les cordistes, on peut peut-être avoir l'image du mec qui va faire un exploit pour aller laver des vitres sur une architecture contemporaine super belle à Dubaï, machin. Ou alors, moins bien, mais quand même pas trop mal, celui qui fait du rig chez l'intermittent du spectacle, qui va aller accrocher les lumières et tout ça avec petit côté rock'n'roll. Et on imagine que d'ailleurs cette partie des cordistes-là savent très bien défendre et gardent leur taf. Hein, ils sont plutôt du côté intermittent. Mais les cordistes, c'est aussi les gens qui nettoient la merde dans les silos. Voilà. Ça peut apparaître nettement moins et pour faire du sucre. Voilà. Donc pour mettre dans le café ou pour faire du bioéthanol ou pour faire même des granulés à bovins dans les trucs de blé quoi.
Ou qui sait, du sirop pour mettre dans le champagne.
Oui, aussi. Oui.
Ah, de la liqueur.
De la liqueur. Ben voilà, il y a des cordistes et il y a des gens qui décèdent. Il nous reste quelques minutes, nous reviendra.
Ceci dit, je voulais dire un truc parce que c'est toi qui l'avais soulevé hier. Dans le Champagne, il y a eu des accidents assez importants, mais il y a eu des réactions aussi très très vives de la part des relations avec les boîtes sous-traitantes. Et rappelle un peu ce que tu disais hier, ça m'avait paru très très intéressant.
Ah ben tout ce qui va être travail en hauteur, selon le prestige de l'employeur, on va avoir évidemment à la fois en termes d'image, mais aussi en termes de contrôle, mais en termes d'image, par exemple, les entreprises qui ont travaillé pour des grosses boîtes, hein, type Moët et Chandon, etc., vont être extrêmement contrôlées sur leur sérieux, c'est-à-dire que un sous-traitant chez Moët et Chandon qui va sous-traiter sur un chantier, il a un seul avertissement pour pouvoir déconner sur la réglementation quoi. Bon, on imagine très bien que si jamais il y avait un pépin sur une réfection de château, en plus c'est des chantiers qui sont assez prestigieux en général, hein, l'image de la boîte serait écornée et que là il y a tellement de pognon, on va dire qu'ils peuvent bien en consacrer un petit peu quand même pour ces braves gens. Et puis d'autre part, on a aussi une organisation syndicale des travailleurs du Champagne.
Oui,
qui est très très forte. Ouais. Alors, elle s'occupe pas forcément des sous-traitants et des gens qui viennent faire les travaux dans les caves, hein, c'est pas ce que je suis en train de dire. Mais quand même, ça crée une ambiance. C'est-à-dire que tu peux identifier un secouriste du travail et tu peux identifier un mec qui fait partie du CHSCT. C'est-à-dire que si tu te sens bien, il y a des gens qui ont quand même une culture syndicale, une culture de défense de leurs intérêts dans une boîte, c'est pas impossible. Là, tu bosses, tu disais, t'es tout seul. Normalement, chaque cordiste doit être SST, c'est-à-dire secouriste sauveteur du travail.
C'est obligatoire.
Donc tu te démerdes toi-même, tu t'auto-sauves. T'as pas besoin d'avoir affaire à quelque chose. Mais bon, nous on reviendra évidemment sur ce procès et je te laisse la parole.
Et juste pour finir, je veux rappeler du coup donc le 11 janvier du coup à 9h à Reims au tribunal de Reims, donc il y aura le procès donc de l'accident d'Arthur et Vincent. Donc il y a un appel à rassemblement, donc invitation à toutes les personnes dans la région et puis tous les cordistes qui sont prêts à faire la route pour venir. Il faut qu'on soit nombreux, c'est vraiment un enjeu ce procès. Et également, dans la foulée, on va faire une réunion du coup sur le samedi 12 pour poursuivre notre processus, continuer à s'organiser pour essayer de se défendre cette profession. Et donc là, ça se passera à nouveau sur Reims ou dans la région rémoise. On va vous informer par rapport à ça. Et pour avoir plus d'infos, j'invite pour les cordistes à aller sur pour l'instant, il va y avoir un site qui va exister. Il est en construction, mais pour d'ici là, il faut aller sur le Facebook. Je suis cordiste et j'ai des trucs à dire. C'est un joli nom. Et en tout cas, il y aura toutes les infos qui seront balancées là-dessus. Voilà. En tout cas, merci pour l'invitation. Merci.
Merci,
pour tout
ça.
Merci à toi.
Le problème, c'est que on a une politique qui est décalée sur ce qu'est la société réelle, quoi. Et enfin la société de la rue, la société du quartier, la société de la ville. Ouais, c'est sûr, j'ai fait passer des gens, mais moi je m'en fous leur loi. Enfin, c'est pas que je m'en fous leur loi, c'est que je vais pas demander les papiers aux gens de savoir s'ils ont leurs papiers, ils ont pas leurs papiers. Si la loi, elle, c'est ça, ben il faut changer les lois, puis c'est tout quoi.
Bonsoir, et eh bien c'était les Grégor. Chaque semaine sur l'École Garrigue à Montpellier, Canal Sud à Toulouse, La Locale à Saint-Girons et bien évidemment Radio Primitive sur Reims où cette émission est réalisée. Vous pouvez retrouver nos émissions sur le site oclibertaire.l'autre.net et sur le blog Le Chat Noir 51.